Autrefois, la grâce de Dieu se répandait sur l'humanité de façon individuelle, et les gens la recevaient individuellement, séparément. Le processus de la réalisation individuelle était exactement à l'opposé du processus collectif. Tout d'abord, on devait établir son dharma, puis se purifier intégralement, en aspirant toujours à son salut, y consacrant toute son attention, pensant à Dieu, implorant sa grâce et agissant scrupuleusement selon le dharma, afin de rester pur. Tout d'abord, on devait établir son dharma, puis se purifier intégralement en aspirant toujours à son salut, y consacrant toute son attention, pensant à Dieu, implorant sa grâce et agissant scrupuleusement selon le dharma, afin de rester pur. L'individu devait maîtriser son mental, ses désirs, ses actions, afin de ne jamais quitter la voie du milieu. Ce n'est qu'après avoir franchi tous les obstacles et toutes les épreuves, démontrant ainsi son mérite, que la mère, la Kundalini, accordait la réalisation. Ce processus a prévalu pendant longtemps. Ces quelques êtres qui atteignirent la réalisation firent beaucoup de merveilles et préparèrent le terrain pour Sahaja Yoga. Mais ils furent très rares. Ils établirent l'importance de la vertu dans leur mode de vie, prouvant qu'elle glorifiait l'homme au lieu de l'abaisser ou de l'avilir. Ils éduquaient les enfants et les préparaient à une vie morale, jouissant pleinement de leur mariage. Puis, après avoir mûri, ils obtenaient leur réalisation et vivaient la plénitude de la vie. Ce faisant, ils orientaient l'attention des gens de l'extérieur vers l'intérieur, vers des valeurs plus profondes, et cela par leur propre exemple, par leur propre comportement, en menant une vie dans la joie et la gaieté. Ils furent les auteurs des grandes écritures, et pendant des milliers d'années, les guides de l'humanité. Ce n'est qu'aux temps modernes, depuis un millénaire environ, que les gens commencèrent à les mettre en doute. Jusque-là, les gens doutaient d'eux-mêmes et se disaient « Nous ne sommes pas capables, nous sommes ignorants. Tout ce qu'ils ont dit est juste, ils sont parfaits. » On ne remettait pas en cause les incarnations, ni ce qu'avaient dit les saints. Leurs doutes ne concernaient qu'eux-mêmes. On nous montre la voie et nous nous trompons encore et toujours de direction. Mais tout cela commença à s'effriter avec le développement de l'ego et le défi du super-ego. La confusion s'installa progressivement dans l'esprit des gens. Ils mirent en doute ces grandes âmes réalisées, au lieu de se remettre en question eux-mêmes. Comme ils ne parvenaient pas au niveau de ces grands saints, certains furent influencés par des puissances sataniques, et ils s'abandonnèrent à elles et répandirent le doute quant aux écritures sacrées et à leurs auteurs. C'est ainsi que nous avons, d'une part, ceux qui doutent, et d'autre part, les fanatiques. Ceux qui voulaient s'en tenir davantage aux enseignements durent devenir fanatiques. Et ceux qui doutaient ne pouvaient convaincre les premiers de leur erreur, ni témoigner d'aucun bénéfice du doute. Cela revenait à s'asseoir entre deux chaises. La véritable religion en l'homme s'écroula. Il ne peut y avoir aucune nouvelle religion. La religion est un processus continu et vivant en nous. Il est notre soutien, semblable à une échelle à laquelle nous grimpons, quittant un à un les échelons, mais ne quittant jamais l'échelle. Tous les échelons sont nécessaires. Il fallait donc établir le dernier, puisqu'aucune de ces deux crises, ni le doute ni le fanatisme, n'avait abouti à la connaissance de Dieu, aucune n'avait atteint la réalité. Elles se sont censurées réciproquement, car ni l'une ni l'autre n'a trouvé la vérité.